Radio Canu, la plus punk des radios. Vous venez d'écouter dans l'ordre France Culture et les Cramés avec le morceau West France. Juste après, c'était The Dicks avec Hate the Police. Et enfin, les Lyonnais de l'Exomile avec Au Travail.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter la fois.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents.
Bonsoir, il est 19h02, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info.
Alors aujourd'hui, on va avoir le plaisir de vous parler de la nouvelle charte du Hamas concernant l'international et également la fin de la télé publique en Israël. Ensuite, on abordera la tentative des fachos de Sicile d'empêcher le sauvetage d'un bateau de migrants. Et également les promesses non tenues du gouvernement Hollande concernant l'affaire Sankara pour la France-Afrique. Nous irons suivre la grève des prisonniers palestiniens, grève de la faim, dure, qui dure. Et quand nous passerons au national, ça sera avec le dernier coup bas du quinquennat Hollande sur le photojournalisme. Et également on parlera des héros, des salariés de la GMS qui sabotent leur entreprise, la piègent et décident d'aller jusqu'au bout. On passera également par une petite calotte financière que la SNCF risque de se prendre si elle refuse de respecter les chibanis qu'elle a exploités pendant 40 ans. Puis nous ferons un petit détour du côté de l'Opéra de Lyon avec ce gros corrompu qui se gave, directeur de l'Opéra, plein les poches, plein le bide. Puis nous irons du côté du Grand Clément, où une mobilisation courageuse et déterminée se fait autour des sans-abri qui sont scolarisés. Puis enfin, nous irons voir un côté de Fezzin, comment la grève se poursuit. Nous aurons l'honneur également de vous présenter un dossier sur Super Macrotte qui a pris le contrôle des Français.
On valide toujours pas cette vanne, hein, par contre.
Macrotte ?
Ouais.
Pas du tout.
Vous aimez pas les pâtisseries ?
Non, personne ici la valide, vraiment.
Ouais.
Même on insiste.
Personne.
Même les pâtissiers, le macroute et tout. Non.
Donc tu arrêtes.
Voilà.
On arrête.
C'était ça qu'on voulait
on
te
arrête.
Dire.
Allez, sans transition, la nouvelle charte du Hamas.
Oui, alors vous avez peut-être entendu parler du changement récent de ligne politique du Hamas en Palestine. Le mouvement islamiste créé en 88 à Gaza et qui dirige actuellement le territoire a en effet revu en grande partie ses documents fondateurs en réécrivant sa charte. Alors, la revue donc, de quelle manière ? Donc, en se recentrant sur des objectifs politiques, abandonnant une partie de sa rhétorique religieuse antisémite. En outre, il semble faire un pas vers ce qui peut être appelé une forme de réconciliation nationale avec l'autorité palestinienne de Ramallah. En acceptant en fait une solution à deux États, la reconnaissance des frontières de 1967, tout en maintenant son refus de toute reconnaissance d'Israël, donc un jeu d'équilibriste, d'une certaine manière. Et ce changement de ligne, il est en fait la traduction de rapports de force interne au mouvement et une défaite partielle des plus durs de la branche militaire, fidèle notamment à Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, face au chef du bureau politique, Ismaël Haniyeh. Les tensions internes incitent toutefois à la prudence sur le revirement apparent, d'autant que la rhétorique guerrière d'Israël est particulièrement forte actuellement, puisque Netanyahou a choisi d'attaquer des médias comme le New York Times ou CNN, qui saluaient d'une certaine manière la nouvelle ligne du Hamas. Donc il semble que Netanyahou ait choisi ses adversaires favoris, en tentant de favoriser une escalade, pour lui un ennemi infréquentable comme le mouvement islamiste est sans doute plus souhaitable. Les Palestiniens, quant à eux, n'ont finalement pas grand-chose à gagner aux recompositions politiques d'un Hamas qui fait taire toute opposition à Gaza. Ils semblent pris entre le marteau de la colonisation israélienne et l'enclume de l'autorité palestinienne ou du Hamas, sans que leurs droits sociaux ou nationaux ne soient véritablement mis à l'ordre du jour.
Oui, et c'est sûr que pour ce qui est des droits des Palestiniens, étant donné l'évolution des droits israéliens, c'est mal barré. Notamment parce que mardi dernier, le premier ministre de l'État impérialiste d'Israël, donc Netanyahou, a vraiment déploré la brutalité employée pour en finir avec la Reshut HaShidur, qui est la première chaîne de la télévision publique israélienne, l'équivalent de France 2, qui a cessé d'émettre hein, sans préavis, mardi soir donc. Alors si ce Netanyahou, hein, que tout le monde connaît comme étant l'un des principaux défenseurs de la liberté d'expression, que dis-je, un protecteur de la vérité et de la liberté d'expression, en témoigne sa présence historique dans le pays des droits de l'homme lors des manifestations Charlie, aux côtés d'autres philanthropes défenseurs du journalisme comme Ali Bongo, Erdogan ou Hollande, eh bien si Netanyahou donc a déploré la brutalité employée pour en finir avec la Reshut HaShidur, c'est pour contrebalancer un petit peu les dernières images de la chaîne où l'on voit Madame Geoula Kolen, la présentatrice de Mabat, le journal du 20h, en pleurs, il y a de quoi, lire parmi ses larmes le communiqué officiel informant les téléspectateurs qu'ils ne verraient plus sur la chaîne que des vieilles rediffusions dès la fin de son émission. Netanyahou regrette donc, comme le Hamas sûrement, que ses larmes aient lavé et bavé à travers le poste et qu'un soupçon, que dis-je, une pincée de doute étreigne le téléspectateur israélien quant à la marche démocratique de son régime. Ah, les pauvres, ils n'ont pas ma crotte, ah désolé, d'en marche ou crève pour non. Défendre leur esprit de conquête. Alors ce qui peut nous rassurer quant à la marche ou crève démocratique de l'État impérialiste d'Israël, c'est qu'au même moment, Kol Israël, la France Inter d'Israël, annonçait que ses programmes finiraient le lendemain et que la radio publique ne diffuserait plus que de la musique entrecoupée d'un petit bulletin d'information à chaque top horaire. Un peu comme chez nous, quoi. Manque de bol, les atermoiements de Netanyahou ont eu du mal à dissimuler l'enthousiasme de sa ministre de la Culture, bientôt avec un K, Miri Regev du Likoud, qui s'est prononcée en faveur du contrôle de l'audiovisuel public par le pouvoir. Un peu comme chez nous, quoi. Ces larmes, qui n'ont pas fini de couler en Israël et autour, sont, malgré les atermoiements de Netanyahou, un contrepoint logique de la Knesset où la réforme est soutenue à fond. Qu'on se rassure, les forces politiques qui triomphent en Israël, persuadées d'être les missionnaires d'un peuple élu, ont fait fermer cette chaîne pour des raisons financières avant tout. Un peu comme chez nous. Et la nouvelle structure qui va la remplacer, qui va remplacer la Reshut HaShidur, eh bien, ses remplaçants diraient qu'elle était trop persifleuse, incisive et indocile, un peu comme France 2 chez nous, va prendre l'antenne à partir de lundi. Mais, évidemment, sans information. Celles-ci seront traitées par un organisme au contour extrêmement flou. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le gouvernement y aura des représentants. Et que pour continuer à protéger la liberté d'expression aux côtés d'Ali Bongo, d'Erdogan, Netanyahou et d'Hollande. Ils ont même songé à nous embaucher, nous, sur le 102.2, Canu Info du lundi, la plus cachère des radios. Sans transition.
Et du coup, on passe
à la Sicile.
Tout de suite à la Sicile.
Oui, tout à fait. Des activistes de l'ultra-droite ont voulu bloquer le bateau d'une ONG qui tente de sauver des migrants en Méditerranée. Donc, dans le port de Catane, port sicilien, des activistes, des jeunesses identitaires, quatre en l'occurrence, se sont mis en travers de la route de l'Aquarius, un navire de l'ONG SOS Méditerranée, une association européenne de sauvetage en mer. Il faut dire que le navire partait à la rescousse d'embarcations libyennes en détresse en Méditerranée. Donc, il faut savoir que les petits merdeux au cerveau reptilien, désolé, les activistes identitaires...
Oui, insulte pas les serpents, s'il te plaît.
Oui, c'est vrai. Alors, toutes mes excuses. Les activistes identitaires ont été interpellés par les gardes-côtes et Miraculous, notre bonne vieille rance, est représenté par un Français de la France, Vichy. Quelle fierté, lol. Il faut savoir que depuis le début de l'année, 43 000 migrants sont arrivés en Italie. Et depuis le début de l'année, plus de 5 000 morts en Méditerranée, d'où la nécessité d'un secours des ONG. Car avant tout, d'être migrant, ce sont des humains.
Puisse un boa constrictor détruire leurs os malingres.
Waouh.
Voilà, la transition va pas être facile.
La transition, ça va être nouveau.
Tu fais trop le malingre. Allez.
Alors, et on va retourner en Palestine où à Ramallah, de violents heurts entre centaines de jeunes Palestiniens et soldats israéliens, bien entendu, ont fait au moins 4 blessés. Une manifestation s'est également déroulée devant le siège du Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité national de soutien aux prisonniers, qui ne mange plus depuis 26 jours. Donc je rappelle qu'on en a parlé la semaine dernière, mais c'est 1500 prisonniers palestiniens qui sont entrés en grève de la faim, demande à l'autorité palestinienne de suspendre les élections municipales prévues samedi. Le Hamas et le FPLP boycottent le scrutin. Officiellement, les élections municipales palestiniennes se tiennent ce samedi, officiellement seulement, car au vu de la situation, on se demande si les bureaux de vote seront réellement ouverts ce jour-là et surtout, quelle sera l'attitude de la population. Enfin, ces élections sont un peu... un objet surréaliste dans une période où les 1600 prisonniers politiques palestiniens sont ce vendredi à leur 26e jour de grève de la faim. Leurs conditions physiques se dégradent, plusieurs d'entre eux ont été transportés dans des hôpitaux et les autorités israéliennes envisagent de les faire venir des médecins étrangers pour les nourrir de force, puisque les médecins israéliens refusent cette pratique dénoncée par l'ONU comme une atteinte aux droits de l'homme. Tel Aviv ne recule devant rien pour tenter de faire plier ses détenus, de briser leur courage. Les grévistes de la faim réclament de meilleures conditions de détention et davantage de visites médicales et familiales. Les prisonniers les plus connus comme Marwan Barghouti et Ahmed Saadat, il se passe des trucs autour, ont été placés à l'isolement. Un grand nombre de prisonniers ne peuvent même plus bouger de leur lit ou satisfaire leurs besoins fondamentaux. Le gouvernement Netanyahou, qui a plusieurs fois dit qu'il était prêt à laisser mourir ses prisonniers, à l'exemple de Margaret Thatcher vis-à-vis de Bobby Sands et de ses camarades irlandais de l'IRA au début des années 80, utilise dans les prisons les services de prison d'Israël, IPS. Les grévistes de la faim sont aspergés d'eau. Le sel leur est refusé et certains ont même dû boire de l'eau chaude. On ne les autorise plus à se changer et à l'isolement, ces prisonniers n'ont jamais le droit de retrouver la lumière du jour. Dans la cour et dans la lumière du jour dans la cour et les fenêtres des cellules sont obstruées. Pire, donc le service des prisons d'Israël, l'IPS, a fait diffuser une vidéo sur laquelle on verrait Marwan Barghouti en train de manger dans sa cellule. Une fausse vidéo dont on voit l'utilisation. Une attitude des autorités pénitentiaires digne des pires tortionnaires et qui en plus a été récupérée par la franchise israélienne de Pizza Hut qui en a fait à des fins publicitaires. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce truc du Marwan Barghouti qui est en train de manger en cachette, donc qui est un fake, et ils ont dit qu'en fait il allait manger des Pizza Hut. Donc
c'est de la pornographie.
Ouais, c'est de la pornographie. Enfin, c'est
d'autant pire. Qu'elles sont dégueulasses leurs pizzas. Hein.
Et hot.
Ça, j'en sais rien. Je n'ai jamais goûté. Mais.
Allez, on y va.
Loin de tout débat électoral, la population se mobilise. Un rassemblement de solidarité a été organisé hier à Ramallah. De violents heurts entre des centaines de jeunes de Palestiniens et les soldats israéliens ont fait au moins 4 blessés. Le comité national de soutien à la grève de la faim des prisonniers palestiniens a appelé l'autorité palestinienne à suspendre le scrutin municipal prévu samedi et arrêter la coopération sécuritaire avec Israël. Selon la loi palestinienne, tous les citoyens qui ont une carte d'identité palestinienne et ont 17 ans ou plus ont le droit de, 17 ans ou plus ont le droit de s'inscrire pour voter. On doute que dans ces conditions extrêmes et au vu des griefs à l'encontre de l'autorité, beaucoup de personnes aillent pourtant voter ce week-end.
Vous êtes toujours sur 102.2, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi.
Et avant de passer à l'actu nationale, comme on fait une émission spéciale Macron et spéciale investiture, on va parsemer l'émission d'un quiz avec des citations. Et il faudra deviner entre Emmanuel Macron, Jean-Claude Van Damme et le grand général de Gaulle qui a dit ça.
J'ai des bonbons à gagner.
Donc... Je précise que personne en studio n'est au courant des citations.
Nous ne savons pas.
Alors, on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, des rivières, des poissons, il y a des frères et des sœurs.
Ça, c'est Macron.
Jean-Claude
Macron. Non, Macron. C'est intelligent comme du Jean-Claude, mais c'est du Macron.
Effectivement, c'est ouais. Emmanuel Macron.
C'est sûr.
Je vous trouve dur, c'est un
peu... Le général n'aurait jamais dit ça.
Et on peut passer à l'actu nationale, sans transition.
Sans transition avec le général, mais en fait, bah,
moi,
oui, il y a des liens.
C'était une bonne transition, j'ai trouvé. Moi.
Oui, mais on continue dans la transition, parce qu'on transitionne beaucoup chez nous.
Moi, si j'avais su, j'aurais voté Jean-Claude Van
Damme. Ouais. Si on avait su, on aurait fait beaucoup de choses. Et c'est vrai. Mais un autre aussi, c'est si on avait su, bah, il l'aurait peut-être jamais soutenu. C'est une fois de plus la presse, et cette fois, par contre, plus particulièrement, les photographes et les dessinateurs pigistes, qui, en fait, ont reçu un magnifique petit cadeau de départ de la part de Hollande, qui, le 7 mai 2017, donc en fait, juste le dernier moment auquel il aurait pu, a fait passer une loi, plus ou moins, quand même, un peu, on peut imaginer, un peu une urgence, vu que ça faisait quand même 6 ans que les parlementaires travaillaient sur ces questions-là. Donc une nouvelle loi sur en fait la rémunération minimum pour les piges, en fait, donc pour les photographes et dessinateurs. En fait, ce décret donc fixe la pige à seulement 60 €. 60 € la commande pour un temps minimum d'exécution de 5 heures. Donc on divise 60 par 5, ça fait 12 € l'heure, donc ce qui est déjà pas énorme, mais surtout si on rentre dans le monde réel, en fait, aucune pige d'aucun photojournaliste ne dure 5 heures, en fait, en général, ne serait-ce que les temps de transport pour aller sur place, en fait, personne ne travaille seulement 5 heures sur ce genre de choses, et donc ça diminue, et ça va rendre encore plus ridicule, en fait, là, ce genre de métier dont les copains ne pourront absolument plus survivre. Donc pour résumer, en fait, le syndicat national des journalistes résume le quinquennat d'Hollande en quelques mots, 5 ans, 3 ministres de la culture, 0 mesure. Donc là, tout est dit, en fait, c'est alors qu'un certain nombre de personnes peuvent imaginer le photoreportage, en fait, comme la presse People, ce n'est heureusement pas que ça, et c'est aussi quand même un certain nombre de personnes qui ont parcouru et traversé le monde, ont dénoncé à travers leur boulot énormément de saloperies, et font vivre une presse indépendante, en fait, qui n'existera absolument pas dans les grands organes de presse traditionnels. Donc voilà, donc le syndicat national des journalistes en fait appelle en fait bah, tous les journalistes pour se mobiliser contre ça et pour pouvoir lutter contre ces délires en espérant qu'un jour en fait ces gens qui font ce boulot soient correctement rémunérés et que comme ils le prévoient à l'heure actuelle on n'arrive pas à une totale disparition du photoreportage.
Bah, d'autant que les reporters de guerre aujourd'hui, vu les moyens de la presse en général, c'est exclusivement des photographes. En fait, ils n'envoient plus sur le terrain des journalistes qui font des papiers. C'est les photojournalistes qui font les papiers aussi. Et par ailleurs, ils prennent les grandes agences comme Reuters pour avoir de l'info. Quoi.
Qui doivent commenter leurs images.
Exactement.
Et c'est d'ailleurs assez dommage qu'il n'y ait pas des gens compétents. Ils le sont, c'est sûr, mais surtout indépendants. Et ça nous permettrait plutôt, par exemple, de nous passer des services pour nous expliquer ce qui se passe à Genève.
Exactement, bravo. Une belle transition. Oui, depuis le mois de décembre, les 277 salariés de l'usine GM&S tentent de conserver leur emploi par tous les moyens. Alors par tous les moyens, on verra un peu plus tard comment. Pour info, GM&S, c'est une usine qui produit des pièces automobiles, principalement pour PSA et Renault. et qui se situe dans ce beau département qui est la Creuse, plus précisément à la Souterraine. Donc,
c'est l'underground de la Creuse.
Qu'est-ce que t'as contre le Limousin
Mais rien du tout, justement.
Sans transition.
Ouais. Donc l'usine est en liquidation judiciaire depuis décembre, comme je le disais, et les négociations pour la reprise sont complètement au point mort. En fait, Renault veut essayer de se débarrasser progressivement de sous-traitants en baissant petit à petit les commandes. Et du coup, les syndicalistes ont monté au créneau et essayent d'obtenir des deux constructeurs qu'ils augmentent au contraire leurs commandes. Parce qu'aucun repreneur peut présenter un bilan chiffré convaincant pour un tribunal et du coup assurer une reprise et le maintien des emplois. Donc du côté de Renault, on propose de maintenir les commandes telles qu'elles existent aujourd'hui. On renvoie la balle à PSA qui répond on n'a rien à se reprocher, on a des GMS, on maintient notre chiffre d'affaires, on s'est engagé à le maintenir. Donc les deux constructeurs bottent en touche. En réalité, c'est eux qui sont à la manœuvre pour toutes les décisions concernant la gestion de ce sous-traitant. Par exemple, en 2014, c'est PSA qui avait suggéré le nouveau repreneur de la firme. Donc à l'époque, GMS s'appelait encore Altia. Et c'est un Italien, Gian Piero Colla, qui avait pris la tête de l'entreprise sur les conseils de PSA. Il s'est volatilisé en juin 2015 en ayant perdu la plupart des clients de l'usine et laissant donc l'usine dans un état désastreux qui conduit aujourd'hui à sa liquidation judiciaire. Aujourd'hui encore, le repreneur est suggéré par PSA, donc vraisemblablement pour réussir à maintenir les commandes à la baisse jusqu'à la fermeture totale de l'usine. Donc, comme d'hab, les capitalistes baladent les salariés peu soucieux de la misère à laquelle ils vont les acculer. Mais les camarades...
Assez soucieux pour la dissimuler, quand même.
Assez soucieux pour la dissimuler, en effet. Mais du coup, voilà, les camarades ne sont pas prêts de se laisser faire. Et ils ont annoncé en fin de semaine dernière avoir piégé l'usine avec des bonbonnes de gaz. Donc, ils montrent, en occupant l'usine et en se la réappropriant, que leur outil de travail leur appartient. Ils ont même commencé d'ailleurs à détruire quelques machines au chalumeau pour montrer leur détermination et essayer de faire reculer leurs exploiteurs. Donc, Vincent Labrousse, le délégué CGT du site, a menacé. Aujourd'hui, la menace, c'est celle d'une liquidation pure et simple. Si tel devait être le cas, l'usine ne sera pas rendue intacte. Donc, on espère qu'ils seront victorieux. On les remercie surtout de rappeler au patron que les moyens de production ne leur appartiendront pas encore si longtemps. Ah bah le capitalisme, ah bah la propriété privée des moyens de production et vive le sabotage.
Et vive le chalumeau.
Alors, parmi les autres héros du quotidien qui essayent de rendre le monde meilleur, ce qui ne passera que par une appropriation des dix moyens de production, eh bien, nous avons un bon gros millier de Chibani entendre les cheveux blancs, c'est-à-dire eh bien, des vieux maghrébins qui ont donné leur sueur, leur sang, leur jointure, leur cartilage, la qualité de leurs mains, souvent leur vie de famille également, pour le travail et pour ce fameux esprit de conquête que Macron prétend nous vendre. Alors, ces Chibani à la SNCF, ça fait 15 ans qu'ils se battent pour faire reconnaître que malgré qu'ils ont effectué le même travail que les Français, eh bien, on les a arnaqués sur les contrats, sur tout ce qu'on appelle le salaire différé, sur les droits au CE, sur les à côté en quelque sorte, auxquels ils n'ont pas eu le droit. Et surtout, avec la récession et le repositionnement international de la SNCF, qui prévoit le tout TGV, le tout vitesse, contrairement aux TER et aux petites lignes, eh bien, on essaie de faire des économies et on essaie justement de remercier ces Chibani sans les payer de la même manière que les Français. Donc du coup, là, on est après les prud'hommes. À un stade où, si la SNCF est condamnée, les pénalités pourraient atteindre des sommes assez astronomiques. Et du coup, c'est un moment intéressant où une partie du prolétariat racisé est présentée comme immigrée, qui n'a jamais ou très peu reçu le soutien des centrales syndicales classiques, eh bien, arrive dans la période actuelle à faire revendiquer ses droits en tant que minorité exploitée et risque, pour ce qui reste des prud'hommes, d'obtenir gain de cause
ce qui leur permettra quand même de vivoter. Nous, c'est ce qu'on leur souhaite. Ils ont travaillé toute leur vie. Il faut qu'ils puissent finir dignement. Bon.
Et du coup, c'est le moment de Jean-Claude Van Damme, Emmanuel Macron ou le grand général de Gaulle. Alors, je vous ai compris.
Ah bon ?
Emmanuel Macron, les trois.
Emmanuel Macron et le général de Gaulle.
Ah, mais il s'est excusé après.
Je vous en fais une autre.
Allez.
La France est en deuil d'un roi.
Ça, c'est un général Van Damme.
Et non, c'était encore Macron.
Encore ?
Ouais, j'ai eu raison.
T'as mis que du Macron, en fait.
Vous en voulez une dernière ?
T'es en train de nous avoir, là.
Bon, bah, je vous fais pas les autres.
Si.
Non, je vous en fais une dernière. Bon, je vous en referai après. Hein.
Ouais.
Alors, lorsque tout semble triste, lorsque tout semble perdu ou morose, il faut penser... Printemps.
Jeanne d'Arc. Ah bah, tu la prends pas là.
Non, c'est trop facile. C'est trop facile, je joue pas.
Ce mec a quand même le lyrisme d'un mauvais étudiant en hypocagne. C'est un peu inquiétant.
Alors que Jean-Claude Van Damme a le lyrisme d'un bon étudiant en hypocagne.
C'est trop
inquiétant. C'est inquiétant aussi.
En même temps, il est inspiré. Sans transition.
On est toujours sur Radio Cani malgré les apparences. Et on va passer au local. Donc,
pas sourire et chansons.
Ouais, les apparences.
Donc, au local, on va vous parler de Serge Dorny. Alors, qui c'est Serge Dorny ?
C'est qui ?
Alors, c'est un genre de François Fillon, un genre de Bernard Tapie, un genre de Cahuzac, un genre de Balkany. C'est un homme politique. Mais cet homme politique, il est à la tête de l'Opéra de Lyon. Donc, la structure la plus. Fortuné de la culture lyonnaise.
Voilà.
Et donc, en mars dernier, il a été... C'est hyper difficile, tout part en couille dès que je fais mon papier. Alors. Là, je ne raconte pas ce qui se passe dans le studio, mais c'est...
Pardon, t'aimes.
C'est l'anarchie.
Voilà, on est bien loin du communisme, en tout cas, c'est l'anarchie, effectivement. Et donc en mars, il est auditionné par la commission des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et qui sont en l'occurrence les financeurs de l'institution. Et en fait, pour une raison, pourquoi a-t-il délocalisé la fabrication des décors de certains spectacles à l'étranger au détriment de l'emploi local ? Passablement irrité, donc Serge Dorny s'érige en patron économe attaché à une utilisation responsable des deniers publics. Mais quelques mois plus tard, donc là il y a quelques jours, l'Opéra de Lyon est épinglé par Mediacité qui publie un dossier composé de plus de 3500 pièces qui sont ces notes de frais. Factures d'hôtel, de restaurant, de fleuriste, etc. Et tous ces documents révèlent un train de vie de diva. Donc les frais de Serge Dorny s'élèvent en moyenne à 8500 euros par mois, donc uniquement de frais de bouche, etc. Puisque sa rémunération, elle, est estimée à 20 000 euros par mois. Alors c'est juste une estimation et à mon avis, connaissant un peu la maison, c'est bien plus que ça. Il doit y avoir bien plus d'à côté que ça entre le chauffeur, le logement, parce qu'il a deux logements de fonction. Enfin, tu vois, c'est quelque chose, un truc quand même assez balèze. Donc, le directeur de l'opéra a des rondes serviettes à la brasserie Le Nord, un établissement de la galaxie Bocuse, et la célèbre mère Brasie à Lyon. Et généreux, il y invite le tout Lyon. Un soir, le chef d'orchestre et son épouse, 644 euros. Un autre, Robert Baninter, l'ancien garde des Sceaux, qui s'était improvisé librettiste d'opéra en 2013. C'était vraiment scandaleux, tellement c'était mauvais. 289 euros l'addition.
La salade.
À midi, le sénateur et maire de Lyon, Gérard Collomb, 272 euros. Un autre patron de GL Evans, Olivier Ginon, 285 euros. Bon, soyons justes, Serge Dorny déjeune certains jours pour 15 euros quand il invite son assistante. De l'hôtel Hilton de Kiev à l'Okura d'Amsterdam en passant par le Stanhope de Bruxelles, le directeur de l'opéra collectionne les séjours dans les hôtels 5 étoiles. Quand il dort à Paris, il va à l'hôtel de Cers, 435 euros la nuit, dans un immeuble discret de style haussmannien à deux pas des Champs-Élysées. Et tout est bien sûr pas en facture, donc il compte vraiment tout. C'est du ticket de métro au stylo de luxe. Donc un stylo de luxe à 650 euros, des prostituées peut-être. Tout est open bar pour le directeur qui fournit souvent ses notes sur des post-it à défaut de facture. Bref, il se gave et la presse lui tombe dessus brusquement. Mais la compta qui lui verse son salaire officiel, plus les à côté depuis 2003, n'a pourtant pas tiqué. En vrai, tout ce petit monde le sait, GG applaudit, trinque à leur santé avec un Dom Pérignon, tous deux rient de la populace. Le budget de l'Opéra de Lyon, c'est 37,5 millions d'euros assurés par le financement public. L'Opéra de Lyon dépend d'une association dont le conseil d'administration est présidé par Rémi Weber, président du directoire de la Banque Postale, mais surtout ancien PDG du CIC Lyonnais, Lyonnaise de Banque, mécène historique de l'institution culturelle. Y siègent des représentants de l'État, de la région, de la ville de Lyon, de la métropole. Bref, l'oligarchie qui se reconnaît, se reproduit et se gave.
C'est au Père-Bar.
Juste une information pour conclure. En fait, là, on vous a parlé d'un média qui s'appelle Médiacité. C'est un truc nouveau qui vient de débarquer sur Lyon.
Et qui a l'air tout pourri, non ?
On ne sait pas. Bah, en fait, vu que c'est payant, on ne sait pas.
Ouais, ça a l'air tout pourri.
Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. C'est un média qui veut de faire des enquêtes et sortir, si j'ai bien compris, une enquête par semaine.
Payant.
Et payant. Bah, je crois qu'il y a une offre découverte. Donc, en tout cas, je vous conseille. Allez voir, vous faites un avis et puis faites-nous des retours. Et puis on verra si on continue à lire ou pas.
Oui, bonjour, je suis un auditeur de Radio Canada. Et je voudrais vous dire que ça a l'air vraiment pourri.
On verra bien, il faut leur laisser une chance. Genre, honnêtement, je ne vois pas du tout ce qui. J'ai pas, vu que c'est payant, je n'ai pas pu voir ce que c'est, donc on verra. Mais bon, en attendant, pour revenir en tout cas, pour continuer dans les activités locales, dans les choses toujours aussi peu joyeuses, quand certains détournent des fonds, des fortunes d'un côté, bah, d'autres n'ont même pas de quoi en fait, se loger. Donc, c'est ce qui se passe notamment à l'école à Grand Clément. Et donc, depuis le 10 mars, trois familles, dont six enfants de 1 à 6 ans, sont sans hébergement. Donc, malgré de multiples demandes aux autorités compétentes, donc à la maire, à l'ensemble de ses directeurs, à Madame Geoffroy, qui était encore jusqu'à la semaine dernière.
C'est où, Grand Clément ?
C'est à Lyon. À vous ?
À Villeurbanne.
Villeurbanne, pardon. Oui. Ok, ça. Pardon. Donc à Mme Geoffroy, oui, qui était secrétaire d'État depuis qu'elle était montée à Paris. Enfin, en clair, ils ont appelé tout le monde. Et en fait, tout le monde s'en fout. C'est ça qui est toujours aussi horrible. Et comme l'année dernière, donc un certain nombre de parents, d'élèves, des enseignants et des habitants du quartier, en fait, sont mobilisés pour justement pallier en fait à l'incompétence des services gouvernementaux. Depuis un certain nombre de mois, on les balade d'hôtel en hôtel. Ils ont dû occuper le gymnase et en fait, voilà. Le gymnase, on les a remis dehors et ils y sont retournés. Et donc, depuis, l'école est occupée. Donc, le collectif Jamais sans toi donc dit stop et demande la mise en place d'un véritable hébergement d'urgence pour ces familles et appelle, on en reviendra dans l'agenda, à un rendez-vous demain, en début d'après-midi, à Grand Clément pour justement manifester et demander le relogement urgent de ces familles.
Et là, on va avoir le plaisir de vous parler d'autres héros encore qui tiennent bon la grève.
À Fézin, donc les postés, c'est des mecs qui restent, je dis des mecs parce que c'est que des mecs, qui restent toute la journée postés devant des robinets, devant des vue-mètres, et qui réajustent en fonction pour pas que tout explose dans une raffinerie de pétrole qui pollue toute la région et tout le monde entier.
Devant des valves.
C'est un peu une tradition locale à Fézin quand même. Hein,
et c'est pour ça que tu dis que c'est des mecs, parce qu'ils sont devant des valves.
Et j'ai pas compris la blague, mais ça m'a l'air très mauvais. Mais en l'occurrence, des gens aussi qui en fait se tapent l'odeur quand même, qui est quand même assez difficile. J'en sais quelque chose parce que j'y suis allé. Et quand tu te rapproches de l'usine vraiment de très près, en fait, c'est toute la journée et c'est tous les jours de ta vie jusqu'à ta retraite. Et c'est tard maintenant la retraite. Donc ces postés sont en grève depuis maintenant 2 semaines. Donc ils étaient à 95% grévistes, puis ils ont reconduit à 90%, ce qui est quand même beaucoup.
Bravo.
Ce jeudi, leur grève. Leur mot d'ordre, c'est conditions de travail des salariés, relations déplorables avec la direction. Et ils veulent une prime pour tous les salariés, ce qui est complètement légitime, puisque en fait, ils sont complètement exploités, ils ont des conditions de travail quand même vraiment dégueu. Voilà.
Et la pérennisation d'une infirmière.
Et pérennisation d'une infirmière aussi. Il se trouve qu'ils ont eu la visite de certains journaux de merde qui leur ont fait des interviews. Alors, ils étaient tout contents parce que du coup, ils répondaient, ils se plaignaient un peu de leurs conditions de travail et que ces journaux les ont fait passer pour des enfants gâtés, n'ont pas repris leurs propos correctement. Ils ont eu en plus des pressions de la direction qui leur dit qu'ils ne lâcheront rien avec une espèce de chantage à la fausse vidéoconférence avec les Parisiens. Et du coup, ils se sont fait trahir de toutes parts et on leur dit que là, de toute façon, ça ne sert à rien. Ils vont juste perdre du salaire et ils ne vont rien gagner. Mais ils tiennent bon et en fait, pour les avoir un peu rencontrés, c'est principalement des faux, mais il y a aussi des CGT qui vont les rejoindre bientôt. Bon, c'est toujours, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord du premier coup, mais ça va pas tarder. Et on a publié, ils ont ouvert une cagnotte Litchi Donc si vous allez sur Facebook, ils n'ont pas trop de Facebook, mais sur le Facebook de l'Assemblée de lutte, vous pouvez retrouver cette cagnotte Litchi si vous avez quelques euros pour les soutenir.
Et vous en avez
Ils sont en train de tourner des vidéos pour expliquer et pour détourner en fait la presse mainstream qui déforme les informations. Donc des vidéos explicatives du pourquoi et du comment de leur grève et du mouvement. Et puis on espère aussi que ça va durer, qu'on pourra aussi les soutenir d'autres façons, par exemple par des rassemblements ou d'autres moyens. En tout cas, on leur souhaite bon courage et puis on souhaite aussi que la case de grève se remplisse.
Mais n'hésitez pas à donner des informations, à transmettre des informations, parce que comme toutes les grèves, il y a des gros problèmes de visibilité. Donc il y a Radio Canu, vous pouvez nous envoyer des infos, il y a Rébellion qui est un site participatif, vous pouvez écrire des articles dessus pour partager. Donc n'hésitez pas à faire tourner, que tout le monde sache la réalité de ces trucs.
Et on va maintenant passer à l'excellentissime, à l'excellentissime quiz.
Ah voilà.
Est-ce Jeanne d'Arc?
Alors
Jean-Claude Van Damme, le général de Gaulle, Mao Tse-tung, Karl Marx, René Char, ou Macron?
Alors là, c'est une spéciale cuisine.
Saint John Perse.
Je ne suis pas là pour beurrer les tartines.
Maïté.
Et non, c'était encore Emmanuel Macron.
Mais qui va nous beurrer nos tartines alors?
Ne me parlez pas des sardines, je n'ai pas le temps.
Joestar.
Joestar, oui.
Patrick Sébastien.
Le général de Gaulle.
Et oui, le général de Gaulle, ouais. Bravo.
Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que vous voulez la thématique spiritualité?
Oui.
Est-ce qu'on a le temps?
On a besoin de spiritualité, tu sais.
Alors, je ne suis pas sûr que Dieu ait jamais parlé. À la fin, ce sont les voix qu'on crée soi-même.
Jean-Claude Van Damme.
Et non, c'était encore Emmanuel Macron.
Ah bon?
L'élu.
Oh putain, il se contredit ce garçon quand même.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Bon, on me fait signe qu'il faut accélérer, que c'est pas drôle le quiz.
Si, j'adore moi.
Non, mais on va continuer donc la transition du quiz à Macron tout court.
Exactement, ah. Et on écoute IAM.
Moi, je préférais le quiz.
Chez le Mac.
Putain, j'en ai un autre après.
Ça se passe comme ça. Mars et mon turf, Marc aussi puissant que ce putain d'argent sur le surf. J'ai tout pris en main et les condés se tâtent pas les raquettes. Je suis libre des vapeurs d'eau écarlate et des tubes de colle à coups de latte. Les consonnes, les voyelles sont toutes à quatre pattes, propres, c'est net. Linguistique pure, style manteau en fourrure. Ma vie a pris une autre tournure. Je ne sais pas où cela me mène, mais même ceux qui m'aiment me décrivent comme étant un schizophrène. J'ai mis des mots au tapin pour la sensation. Trottoir, les syllabes, prostituer la diction, les lettres travaillent pour moi. Le dico est mon territoire, un pays dont je veux être le roi. J'ai traité des phrases comme de vraies dames, tirer les plus belles pour les mettre en vitrine comme à Amsterdam. Si tu veux la qualité normale, tu payes cash, ça arrache à consommer avec un choc de hache. J'ai des potes dans la profession, c'est pas la mode, mais pourquoi crois-tu que J.O.S. s'appelle Monsieur Claude Petit? Parade avec tes illusions de Benz. J'ai une merde sur le marché parce que tes phrases sont Renz. C'est dommage, t'inquiète par le chômage. Mon organisation est trop en place, c'est bien trop sauvage. Ma famille vient de ce quartier qui faisait peur à Hitler, ou la French est née pour niquer la terre entière. Je m'en souviens encore, mais pourtant je devais être petit. Scarface n'est pas un rêve, il a existé ici. L'italiano prend la relève 20 ans après. C'est tout notre monde, c'est tout notre marché. Je suis distrait, distant, dispo, prêt à disparaître. Mon discours éternel, seul un rêve peut renaître un jour. Je suis une forme nouvelle d'un novice. 26 lettres, 100 000 mots à son service. N'est pas ma cible, mais je croise des concurrents sérieux. Alors je redouble de travail et serre le jeu. Si tu veux la bombe, tu rack Ronald, ça se passe comme ça chez le Mac.
Laisse-moi faire la vie. Je travaille pour toi.
Ça se passe comme ça
chez le Mac. Chez le Mac.
Ça se passe comme ça
chez le Mac. Chez le Mac.
Ça se passe comme ça
chez le Mac. Chez le Mac.
Ça se passe comme ça.
Chez Mac, chez Mac, le petit noir à tête rasée.
Et ouais, chez Macron, c'est marche ou crève.
Et ouais, t'as cool ta transition. On est bien là.
Ça, c'est la transition.
Merci.
Attends, j'ai. Ah, on n'entend plus. J'ai quiz. C'est une aspiration constante à l'universel, c'est-à-dire cette tension entre ce qui a été et la part d'identité. Cette ipséité stricte et l'aspiration à un universel, c'est-à-dire ce qui nous échappe.
Ça, c'est Jean-Claude Van Damme avec trop d'en fait.
Macron sur France Culture, en vrai, mais.
Bon. L'identité, c'est A égale A, mais il n'y a pas que des A dans cette société, il y a des A et des B.
Jean-Claude
et je n'ai pas envie que A égale B.
Jean-Claude Van Damme sur France Culture.
Moi, j'ai envie d'en faire plein, mais bon, je me fais engueuler après. Donc,
En marche. Et transition.
Du coup, En Marche, ouais, on a suivi un peu l'investiture.
On avait même, et ça c'est le secret. Aucun auditeur ne réalise qu'on a envoyé des envoyés spéciaux.
Exactement. Du coup, on a fait un petit son pour vous résumer un petit peu l'investiture, qui était quand même un moment hyper intéressant.
C'était bien.
Ouais, ben oui, on s'est bien amusé.
C'est l'homme.
Le dimanche sur la télévision publique, c'est l'éclat.
Moi, j'ai regardé 25 heures la télé dimanche.
Donc voilà. Et comme on est sympa, on vous a fait un résumé de 1 minute.
25 heures en 1 minute, vous plaignez pas.
Moi, j'ai trouvé des. Il y a eu certaines longueurs.
La fameuse poignée de main. Entre François Hollande et Emmanuel Macron a duré 25 minutes de plus.
Le grand moment, enfin, il n'y a que des grands moments. Mais un très grand moment est arrivé pour nous, pour vous qui nous faites l'amitié de nous suivre et vous êtes si nombreux. Et surtout pour eux, Nathalie Péchala et Fabien Bonza se présentent donc sur la glace.
Excusez-moi Jean-Michel Dion, là on voit Emmanuel Absolument. Macron arrive au premier cercle des fidèles. Hein. Mmh. Une longue aparté avec Gérard Collomb. Qui est très ému, il a les larmes aux yeux Gérard Collomb.
Oui, comme le France avec Mitterrand.
La larme sur le visage hein, du sénateur maire de Lyon.
On a eu un petit souci technique, donc comme vous pouvez constater, Robert a zappé en plein milieu de notre dimanche sur le patinage artistique. Mais c'était vachement mieux hein, que l'investiture. Et donc sans transition. C'est t'as dit que t'avais pas besoin de transition.
Sans besoin de transition.
Donc hier, j'ai pensé à Christine Boutin.
Nous aussi.
J'ai en effet eu, en allumant mon téléviseur pour Jour du Seigneur sur Antenne 2, la divine surprise de tomber sur une autre forme de cérémonie. L'hostie prenait la forme d'un type en costume juché à l'arrière d'un 4x4 de l'armée de terre.
Ah, t'as vraiment regardé le patinage artistique, toi.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, voiture de commandement, me susurrait le journaliste.
Éclaireur.
La voiture donc, se précipitait vers l'Arc de Triomphe, lequel se découpait tel une bouche immense de premier communion sur le ciel de Paris. L'hostie, Emmanuel Macron, qu'elle s'appelle, était droite comme un piquet, insensible au chaos, toute drapée de dignité présidentielle, à califourchon sur le ridicule du moment.
En marche.
Il se concentrait fort, Macron, pour ne pas voir basculer son petit corps de pain de mie présidentiel sur le bitume de l'avenue la plus surévaluée du monde. Bon, effectivement, ça roulait pas bien vite et Macron a sans doute eu tout le temps du monde pour manger les vivats de la foule, boire les embrassades, boulotter par anticipation le droit du travail sous les larmes de joie de Gérard Collomb. Toujours est-il que la voiture de commandement tangue déjà. Valls s'accroche à l'attelage en pleurnichant « Laisse-moi monter, laisse-moi monter ». Bayrou fout le bordel sur le siège passager, réclamant tantôt son disque préféré, tantôt une centaine d'investitures législatives. Centaines d'investitures législatives qu'il finit par obtenir. Et pendant ce temps, plusieurs centaines de candidats, pré-candidats, presque et post-candidats recomposent le moteur. Cet enchaînement bancal de métaphores frelatées vous aura permis de le comprendre. Frelaté. Les législatives n'auront pas lieu.
Pas plus que 2017.
Pour En Marche.
Mais d'ailleurs, elles sont en 2017. Hein,
arrêtez de l'interrompre.
Les enfants, non. Vous êtes insupportables. Pour En Marche, tout concourt en tout cas à faire de ce nouveau numéro du cirque électoral, non pas un grand moment de communication sur le renouvellement, mais un étalage à ciel ouvert de la fonction véritable du mouvement d'Emmanuel Macron. La relance, à peu de frais, de tout un système, de tout un personnel politique usé, à la seule fin de poursuivre l'entreprise de casse sociale des gouvernements successifs. Tous les soifards de l'État bourgeois sont à En Marche, accoudés au comptoir devant un bleu-blanc-rouge limé salement dosé.
Soifard, soifard.
Tout avait pourtant bien commencé. Une commission d'investiture composée d'anciens du PS et dirigée par Jean-Paul Delevoye, vous voyez comme ça commence bien, ancien ministre de Raffarin, devait statuer sur les candidatures avec pour mandat le fameux renouvellement.
Recyclage.
Tu vas me casser tous mes synonymes avant que j'aie pu les sortir, t'es vraiment un salaud. Hein. Donc cette commission contrôlée de près par Macron et ses proches fonctionne à la manière d'un casting de télécrochet ou d'un DRH, épluche les CV, évalue motivations et compétences. Au processus partisan classique, reposant sur les rapports de force internes à un mouvement politique, La République En Marche, puisque c'est son nom et son chef, ont préféré un processus entièrement centralisé, rationalisé, calqué sur le modèle d'une boîte recrutant des cadres corporates et bien mis. Un tel recrutement, c'est normalement la garantie de parlementaires obéissants, dotés d'un mandat impératif, issu non d'un parti, En Marche est trop jeune, trop flou pour ça, mais d'un homme et de sa garde rapprochée. Macron est en fait seul détenteur de la ligne, puisqu'il est aussi le seul à la comprendre. Mais le recyclage des vieilles badernes de la politique bourgeoise cadre mal avec cette poésie du renouvellement corporate. De la même manière qu'Uber ou Deliveroo, c'est la bonne vieille exploitation repeinte aux couleurs de la modernité. En Marche, c'est déjà un vieux parti centriste pourri, une énième résurrection du radicalisme de la Troisième République, sous les atours les plus effrayants du capitalisme contemporain. Négocier avec le Modem, combiner avec les socialistes, approcher LR et même recruter un ministre issu de ce parti, tout semble bon pour changer le packaging de la vieille garde républicaine, pour rebrander Le Drian, Le Maire ou Bayrou. Rien de ces arrangements ne nous est épargné, et il est visible que le renouvellement de Macron n'est qu'un piteux recyclage. L'attelage semble donc boiteux, mais n'en doutons pas, tous les marcheurs nouveau-nés ou recyclés, jeunes loups venus du privé ou zombies parlementaires de droite, de gauche, du centre, tous s'entendront bien assez longtemps pour nous étouffer avec leurs ordonnances, et ce, dès cet été. Le 4x4 de Macron peut bien tanguer, ils serreront les rangs pour s'attaquer à nous. À cela, une seule réponse, paver leur route de nos mauvaises intentions.
Super. Moi, je tiendrais quand même à rétablir une vérité historique, à savoir tout ce que tu as dit.
C'est vrai, les soifards de l'État bourgeois sont là, ils sont parmi nous.
On ne dit pas Bayrou.
Oui, et Bayrou. Je suis un peu, quand tu dis la foule, mais quelle foule sur les Champs-Élysées.
Ah mais c'est okay. Pas moi, c'est France 2 qui l'a dit.
Ah si, c'est France 2. Toutes mes excuses.
C'était très ironique. Hein.
Ça m'a inspiré un quiz en plus.
Ah, incroyable. Ah ouais.
Jean-Claude Van Damme, De Gaulle ou Emmanuel Macron, les partis ne peuvent pas conduire la France, c'est trop dur.
Jean-Claude Van Damme.
Macron.
De Gaulle. Incroyable.
Inattendu.
C'est trop dur. Et du coup, comme on sait déjà à peu près, bah oui, on n'a pas beaucoup de temps là, et on a un son à passer en plus, puisqu'on sait déjà à peu près ce qui va nous arriver avec Macron, parce que même s'il n'avait pas tellement de programme, il a quand même fait quelques annonces sur la casse, au moins nos conditions matérielles d'existence, le droit du travail, tout ça. Du coup, on écoute quelques-unes de ses meilleures citations qui vont nous inciter à aller nous battre dans la rue.
Ah, méditer.
C'était pas Jean-Claude Van Damme, en fait.
Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche.
Il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires.
Ce que je suis en train de dire, c'est que je suis favorable à ce que la loi prévoie la capacité laissée aux partenaires sociaux de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires.
L'entreprise, c'est le lieu où précisément des jeunes Françaises et des jeunes Français vont devenir autre chose que ce qu'ils sont, vont pouvoir se réaliser.
Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre.
Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer.
Mais ce qui a bloqué la France, moi, c'est le 49.3, monsieur Macron.
Vous n'allez pas me faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Voilà.
Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées.
Et quand tu es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème du SMIC jeune, 35 heures c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 heures parce que tu apprends ton job en même temps. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui.
L'été indien.
Et ouais, l'ouvrier n'a rien à perdre vu qu'il n'a rien à gagner.
Et pour les geeks que vous êtes peut-être, c'était Street Fighter, hein, les extraits.
Appelez-nous et on vous envoie toutes les combinaisons de touches pour faire les combos que vous avez entendus.
Il n'y a pas de combos dans
Street Fighter.
Il
n'y
a pas de combos dans Street Fighter. Non,
mais t'arrivais pas à les faire, c'est tout.
Dossier Macron, dernier sujet. C'est...
Le mec, il a jamais sorti un Hadouken et il vient nous faire chier.
C'est grave, mec.
Dernier sujet du dossier sur l'investiture de Macron, etc. Et écoutez-le bien, ça va être de la pipe.
Il n'y a pas un quiz ? Alors, pour aller dans la continuité des citations là, de Macron, eh bien, il faut quand même. On l'avait fait pour Donald Trump hein, aux États-Unis, on va le faire pour Macron en France, c'est-à-dire sa garde rapprochée, nommée par lui à l'Élysée. Alors, on va en citer quatre, hein, c'est les quatre principaux.
Les mousquetaires.
Donc, son secrétaire général, Alexis Kohler, donc. Ancien énarque, donc de l'ENA, ancien directeur du Trésor public, et il a également travaillé au Fonds monétaire international, institution internationale qui exerce pour le bien-être des peuples de par le monde.
Voilà.
C'est l'ancien directeur de cabinet d'un certain Pierre Moscovici.
Un type sympa.
Alors Moscovici, strauss-kahnien en puissance, actuel commissaire européen à l'économie et ancien chef du fameux Cercle de l'Industrie, un lobby patronal français très influent auprès de la Commission européenne. Il a ensuite été directeur de cabinet d'Emmanuel Macron quand ce dernier était ministre de l'économie. Ils ont élaboré ensemble la loi Macron, pour le bienfait des travailleurs.
Bonne loi.
Hein, et en août 2016, il démissionne et prend la direction financière du croisiériste italien MSC, croisière à pas cher, donc en Méditerranée et
en
Caraïbes. Voilà. Alors, on continue avec un certain Ismaël Émélien, 30 ans, conseiller spécial du président aujourd'hui. Alors, à 19 ans, comme le disent les médias, ce surdoué, hein, stoppe ses études pour travailler aux côtés d'un certain Dominique Strauss-Kahn, son professeur de l'époque, et participe à l'écriture de ses discours lors de la campagne pour les primaires de 2006. Il rentre ensuite dans la formation Jean Jaurès, proche du Parti Socialiste, et il y rencontre un certain Emmanuel Macron qui vient tout juste d'intégrer la banque Rothschild. Il s'adore. En 2014, il est membre immédiatement du cabinet d'Emmanuel Macron, puis devient conseiller stratégique au lancement d'En Marche. On continue avec Patrick
Jean-Claude Van Damme,
directeur de cabinet. Donc ce nouveau directeur de cabinet, lui c'est un vieux de la vieille, mais c'est un pur produit de la préfectorale. Hein, après l'ENA, il a parcouru en France les préfectures, alors soit en tant que directeur de cabinet du préfet de Dordogne, soit sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, etc., etc., etc. Et pour terminer, il finit donc en Bretagne en 2013 dans des conditions plutôt agitées, puisqu'il doit faire face au mouvement des Bonnets Rouges, à la crise agricole, puis aux manifestations contre la loi El Khomri. Il a donc eu le temps de bien... Non, puisque Notre-Dame-des-Landes n'est pas en Bretagne, mais on n'est pas très très loin.
Ah, j'avais cru que...
Mais c'est pas grave.
Bim. Comment il t'a recadré.
En tout cas, bien l'entraîner à la répression. Donc ça, c'est le directeur de cabinet, ce sera le monsieur répression, donc surentraîné du nouveau président de la République. Et on continue et on termine avec Sylvain Faure, chargé...
Ce type est prof d'histoire géo, j'imagine même pas ses élèves, tu vois, comme ils doivent en baver.
Je suis plus sympa avec mes élèves, je te jure. Donc, Sylvain Faure, chargé de la communication du nouveau chef de l'État, et ce normalien, donc c'est encore quelqu'un issu de l'ENA, un agrégé de lettres classiques qui transpose son poste à l'Élysée. Il est passé par BNP Paribas et une certaine société de conseil qui s'appelle DGM Conseil. C'est l'agence de communication d'un certain Vincent Bolloré, notamment, et d'un certain Bernard Arnault, donc des petits du CAC 40, des petits patrons,
petit.
Hein, voilà, des tout petits, tout petits, tout petits. Et donc c'est lui qui va maintenant gérer les mots et l'image du chef de l'État. Donc on voit que sa garde rapprochée est vraiment proche du peuple.
Ouais,
dans la merde.
En marche ou crève.
Mais aujourd'hui était un grand jour, Dieu a choisi son premier disciple. Donc, bah si, de fait. Jésus étant revenu, il commence à choisir ses disciples, et donc le premier d'entre eux, qui dirigera tous les autres, s'appelle Édouard Philippe. Au début, j'étais persuadé que c'était Édouard Martin, le syndicaliste. Bon, heureusement, ce n'est pas le cas, on a été loin.
La CFDT
oui, en plus, au final, ça aurait pu. Mais non, donc non, mais c'est un monsieur, il s'appelle Édouard Philippe, qui est honnêtement, je pense, totalement inconnu du grand public, mais qui a quand même pas mal de casseroles, ça n'en empêche absolument pas. Et puis, donc, on va essayer de vous en dresser un petit portrait rapidement.
Oui, alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'Édouard Philippe, c'est un ancien du Parti Socialiste, duquel il a été membre pendant ses années d'études, qui a rejoint donc, pour faire carrière l'UMP puis les Républicains, qui est maire du Havre depuis quelques années après en avoir été adjoint, qui est lui-même un énarque, un science piste, etc. Donc il y a vraiment le profil pour être dans l'équipe de Macron. Il faut voir par ailleurs qu'il a été membre de l'équipe de campagne de Juppé, qu'il a critiqué vertement Macron pendant la campagne présidentielle, et qui vient à présent donc à la bonne sous-soupe pour ramener quelques députés Les Républicains, on n'en doute pas, pour composer de briquet de broc une majorité après les législatives.
C'est d'ailleurs, le Premier ministre devait être annoncé dans la matinée, apparemment assez tôt, et il a été annoncé qu'à 14h30, et visiblement, d'après des gens qui étaient à l'intérieur, c'est que Les Républicains demandaient 50% des ministres. En fait, et du coup, ça voulait pas céder dans un sens dans l'autre, et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à ce que ça sorte.
Et c'est ça qui est bon d'ailleurs, c'est d'entendre tous les France Turcule et les France Inter nous expliquer que le choix de Macron d'Edouard Philippe, c'est avant tout un bon coup. Pas parce que c'est un bon type, mais que ça fout la merde à droite. Et c'est ça qui est bon.
Et pour ça, il est vrai que cet homme est totalement brillant. Il est brillant à de multiples échelles, et notamment parce qu'en fait, c'est Monsieur Uranium. Ce mec-là est totalement vendu à l'uranium. Il a bossé, il faut quand même revoir ça depuis 2007, en fait, de 2007 à 2010 pour Areva. Il est en bonne partie responsable en fait, du pillage du Niger et de tout ce qui est des massacres qui se passent là-bas. Oui, du Mali, enfin d'une part, et d'hélas, de la moitié de l'Afrique subsaharienne. Il est uramine, en fait, il est totalement mouillé dedans. On attend d'avoir plus d'informations, en fait, l'enquête, mais on est à peu près. En fait, pas mal de questions se posent la question de est-ce qu'il va justement totalement enterrer, en fait, ce procès, en tout cas cette enquête. Et il est donc, on a dit maire du Havre, il a cumulé de 2007 à 2010 la fonction, justement, d'adjoint en fait au maire du Havre et d'un de quatre dirigeants d'Areva. En 2014 en fait il s'est quand même pris un blâme parce qu'il a carrément refusé de donner son patrimoine, ce qui est totalement illégal.
Il a écrit pour l'évaluation de son patrimoine immobilier. Ouais, quand même,
hein. Oui, parce qu'on est tellement riche qu'on sait pas, on sait plus compter. Il a pas eu les moyens de se payer un comptable.
C'est Bayrou qui va pas être content,
c'est ça, ouais.
Lui qui veut tout moraliser.
Très colère.
Oh, la pauvre. Et dans la logique d'une citation où je peux déjà, enfin vous avez vite deviné et qui c'est, il a quand même admis pendant
Jean-Claude Van Damme.
Ça serait tellement bien. Mais il a quand même admis qu'il partageait un certain nombre de références à Bernard Cazeneuve, dont on ignorait Bernard Cazeneuve par sa référence, et notamment comme Léon Blum. Mais il a aussi ajouté quelques personnalités comme Charles de Gaulle et Georges Clémenceau.
Donc imaginez-vous un
mélange
de Clémenceau
et de Gaulle. Il a oublié Van Damme parce qu'honnêtement, déjà vu le premier mélange, ça donnerait. Je pense que Van Damme aurait pu rééquilibrer tout le tout.
T'as 3 minutes pour l'agenda, Pélo.
J'ai 3 minutes pour l'agenda, et donc on va se dépêcher parce que là, cette semaine en plus, elle est super chargée avec quand même pas mal de choses fort sympathiques.
Et tu laisses une petite minute pour le quiz.
Ouais,
une
seconde pour le quiz.
Agenda.
Les jeunes, évidemment, ils ne sont pas vieux.
Jean-Claude Van Damme.
Ça.
Ouais, c'est Jean-Claude Van Damme.
Et non, c'est voilà. De Gaulle.
On a gagné.
Alors, mercredi, l'agenda, mercredi.
Non, mais dès mardi, gars, en fait, on vous propose de réécouter.
Gueulez-vous.
En marche en arrière. Mais.
En marche en arrière,
30 secondes.
En marche arrière.
Donc, demain, de 20h à 21h, en fait, pour commencer à fêter les 40 ans de Canu, un camarade, en fait,
ça, c'est important.
On repasse l'émission enfin, pour les 30 ans qui rappellent l'histoire de la radio. Donc, oui, maintenant, on passe à mercredi. Et donc, il va y avoir deux trucs. Il y a l'assemblée de lutte, en fait, entre 18h et 20h30. Ça, la date est hélas, on ne pourra jamais prévoir la fin. À la Bourse du Travail, donc on vous incite à être nombreux à venir. Et en même temps, en fait.
C'est pour s'organiser contre Macron et les prochaines lois travail qu'on va se prendre dans la tronche.
Ouais,
et
Édouard Philippe.
Édouard Philippe aussi, oui. C'est...
Philippe Poutou, Édouard nulle part.
Non, je vous en supplie, 30 secondes, je finis l'agenda. On finira.
Yes.
Donc, mercredi, en fait, toute l'après-midi, là, c'est indiqué à partir de 16h. Et en tout cas,
pendant tard dans la nuit, la CGA, en fait, à l'occasion de la journée internationale contre l'islamophobie et la transphobie, la CGA organise en fait toute une après-midi d'information et donc diffuse un super documentaire à 20h qui s'appelle Major et qui a l'air très très bien. Vous retrouverez plus d'infos sur Rébellion. Jeudi, il y a beaucoup de choses. Il y a une conférence à Terre des Livres entre 19h, à partir de 19h. Sur un ouvrage qui s'appelle Anticapitalisme, une sociologie historique de l'engagement, rencontre avec Florent Josua, l'écrivaine. Il y a une projection débat qui s'appelle Printemps citoyen, et il y a beaucoup de choses à la fois.
À la bibliothèque de la Pardieu, il y a une histoire comparée du panafricanisme et de l'afrocentrisme. C'est une conférence à 18h30 organisée par le Centre d'études postcoloniales lyonnais.
Voilà, on a été bien contents.
Non, il y a encore des trucs, il y a encore plein de trucs.